Alors ce soir, j'ai le très grand plaisir de vous présenter donc Dominique Audero, qui est un homme du Volvestre et qui s'occupe dans pas mal d'associations, aussi bien de théâtre que dans la rue Bambol, puisqu'il est notre secrétaire et il nous fait des choses physiquement bien lorsqu'il fait ses comptes rendus. Alors figurez-vous que vous auriez pu avoir la conférence en occitan, mais on l'a dissuadé de la faire en occitan parce qu'il y a au moins deux ou trois personnes qui viennent de Normandie et d'ailleurs, donc on a préféré ne pas les exposer à notre langue. Dominique, au-delà d'être de parler d'occitan, s'est mis à étudier la physique jusqu'à obtenir bien sûr un doctorat. Grâce à ce doctorat en physique, il s'est mis à travailler en tant que maître assistant à l'université de Picardie, tout en développant de la recherche au CNRS sur les plasmas. Je ne sais pas ce que sont les plasmas, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas l'objectif, immédiatement. Et puis, de la recherche publique, Dominique est allé butiner, je parle de butiner puisque nous avons eu, il y a quelque temps, une conférence sur les insectes pollinisateurs. Donc vous voyez, on fait un petit peu des ponts entre les sujets. Et il est allé butiner dans le privé, chez Alcatel, chez Thomson, chez Thales, où il a mis en application les principes de physique qu'il avait contribué à développer et qu'il avait appris. Il a bricolé sur les sonars, sur les radars, et vous avez pu entendre que il y a deux soirs et même l'autre soir, il y avait des drones qui tournaient autour de Paris, et je me demande en quelle mesure ce n'est pas lui qui était au pilote, aux manettes, parce que quand j'ai posé la question, il m'a dit oui, effectivement, j'aurais pu m'occuper de drones. Trêve de plaisanterie. Nous allons maintenant donner le micro à Dominique qui va nous parler de la folie des années 20-30 par le biais de la physique. À toi Dominique.
Merci.
Alors tout à l'heure, je vais mettre près d'abord. Vous m'entendez là ? Je vous remercie d'être venus aussi nombreux par ce temps exécrable, sous la pluie, et je vous en remercie doublement. Je ne sais pas si vous me remercierez à la fin de cet exposé, mais je prends le risque. Donc, ce soir, je vais essayer de vous donner quelques idées sur ce qu'on appelle la physique quantique, c'est-à-dire la physique du microscope, du microscopique, j'entends. Voilà, là c'est mieux. Et c'est un milieu, c'est un monde qui est complètement différent du monde dans lequel on vit. Et tout le bon sens qu'on peut avoir ici, dans le monde naturel que nous avons, eh bien, il est complètement différent dans le monde microscopique. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, la première diapositive, c'est les années folles 1920-1935, on connaît tous cette période par l'effervescence qu'il y a eu dans tous les domaines, de l'architecture, de la sculpture, de la littérature, j'en passe, vous avez des noms au tableau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous ces gens-là sont bien sûr très connus. En revanche, et en bas de cette diapositive, vous avez des noms qui sont beaucoup plus discrets, je dirais, qui sont beaucoup moins connus du grand public. Et ce sont des physiciens qui ont créé vraiment une révolution pendant ces années 1920-1935. C'est donc de ces gens-là dont je vais parler. Alors, pour en revenir à tous les jours, vous avez des quantités d'appareils que vous utilisez couramment, comme le PC, la télévision numérique, le GPS, les lasers. Il y a également tous les instruments médicaux, comme le CRR à rayons X, l'IRM, imagerie par résonance magnétique. tout ça, ce sont des produits courants qui sont utilisés régulièrement et qui viennent justement des découvertes de la physique quantique. À côté de ça, vous avez aussi le gigantesque. Il y a quelques exemples montrés ici, comme l'étude du fond diffus cosmologique avec le satellite Planck, qui est un satellite européen, qui vient juste d'arrêter d'émettre, mais qui a fait énormément a fait progresser énormément la connaissance de cette diffusion cosmologique. Vous avez le laser mégajoule, qui a été construit par le CEA, le centre d'études, le centre. J'ai un trou de mémoire, CEA, ça veut dire centre d'études atomiques, c'est pas ça, mais ça derrière. C'est d'énergie atomique, voilà. À Bordeaux, près de Bordeaux plus exactement, et c'est un centre où on essaye de faire de la fusion thermonucléaire par inertie, c'est-à-dire un moyen de laser de très grande puissance de l'ordre du mégajoule. À côté de ça, vous avez ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, qui est en cours de construction près de Cadarache et qui est en fait une réalisation commune à une dizaine de pays, dont les pays de l'Europe, les États-Unis, la Russie, le Japon, la Chine, tout ça pour essayer de développer le futur réacteur de fusion thermonucléaire qui va remplacer les centrales atomiques dans 50 ans. Donc c'était vraiment expérimental et c'est en tout début de construction. Vous avez enfin le LHC, Large Hadron Collider, à Genève, au CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, qui est aussi un énorme bazar, si je puis dire, qui comporte à peu près 10 000 chercheurs, qui coûtent des milliards d'euros, et qui a permis de découvrir, de trouver expérimentalement le fameux boson de Higgs, il y a 2 ans, en 2012. La diapo suivante. Donc, tout ça, au départ, c'est grâce à la physique quantique. Décrit le comportement des particules et ces particules ou ces atomes qui sont constitués de ces particules, ce sont pour tous les objets de tous les jours, excusez-moi je bafouille, c'est ce qu'on appelle la physique atomique, c'est-à-dire la physique autour du noyau, c'est-à-dire les électrons qui gravitent autour du noyau et les énergies qui sont nécessaires pour travailler sur pour faire des mesures sur cette physique atomique sont des énergies assez faibles, de l'ordre de l'électron-volt, du kilo-électron-volt. C'est-à-dire, un électron-volt, c'est l'accélération, c'est l'énergie donnée par un électron lorsqu'on l'accélère sous une différence de potentiel de 1 volt. 1 volt, c'est pas beaucoup, le courant alternatif ici fait 220 volts. Vous voyez que c'est assez petit. Inversement, le gigantesque, lui, demande des énergies beaucoup plus fortes, de l'ordre du GeV, 10 puissance 6 électron-volts et du Tera électron-volts, c'est-à-dire 10 puissance 12, et c'est les énergies qui sont nécessaires pour travailler sur le LHC, par exemple. Alors, avant d'attaquer les choses, un petit lexique pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que c'est que l'atome. L'atome est constitué d'un noyau et d'un nuage d'électrons. Il est représenté ici. Vous avez les électrons qui gravitent autour du noyau, et le noyau est constitué de protons et de neutrons. Donc ça, c'est une image très simplifiée, bien sûr, mais c'est suffisant pour comprendre la suite. Ensuite, donc, plus exactement, l'électron, c'est une particule de matière, et alors que le photon est aussi une autre particule, c'est une particule de lumière. C'est le grain de lumière, de la lumière du soleil, par exemple. Ensuite, vous avez, on a parlé de particules, vous avez des ondes également. Donc là, je rappelle ce que c'est qu'une onde. C'est une forme sinusoïdale et qui a une longueur d'onde, lambda, c'est la distance entre deux sommets ou deux creux de la sinusoïde. Elle a une fréquence qui est l'inverse de la longueur d'onde, lambda égale c sur nu, la fréquence, c'est la célérité ou la vitesse de la lumière qui est de l'ordre de 300 000 km par seconde, lorsque c'est une onde lumineuse. Et le dernier point que je vais rappeler, parce que j'en parlerai toujours, c'est E égale MC2, c'est-à-dire la correspondance entre l'énergie et la masse d'un atome. Et C, c'est toujours la célérité de la lumière, et M, c'est la masse de la particule, et E, c'est son énergie. C'est grâce à cette relation, qui a été trouvée par Einstein en 1905, qu'on peut faire la bombe atomique. Alors, le rayonnement, toujours pour parler des longueurs d'onde, vous voyez que c'est un spectre immense. Les fréquences varient entre des valeurs extrêmement grandes, comme 10 puissance 30, et des valeurs extrêmement faibles, de l'ordre de 10 Hz. Vous avez ici la lumière visible, qui se trouve dans un tout petit niveau du spectre entre 400 nanosecondes, pardon, 400 nano fréquence et 700. Donc, de ce côté-là, vous avez les ondes radio, et de ce côté-là, vous avez les ondes beaucoup plus petites qui vont nous servir dans le cadre de la physique atomique. Vous avez des rayons X, des rayons gamma, des rayons ultraviolets. Alors, bon, ça c'était des rappels ou simplement pour essayer de positionner le problème. Maintenant, comment on en est arrivé là? C'est une très longue histoire. La physique a commencé du temps des Grecs, en particulier avec Aristote, 350 ans avant Jésus-Christ, et pendant à peu près 2000 ans, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Il est arrivé Galilée dans les années 1600 et c'est la naissance de la physique moderne. On y reviendra. Il y a en fait, pendant toute cette physique moderne, il y a trois grandes étapes. Il y a Galilée, ensuite il y a Newton dans les années 1700 et ensuite il y a Maxwell dans les années 1850. Et entre-temps, il s'est passé des choses, je ne rentre pas dans les détails. D'ailleurs, je devrais préciser que je ne vais pas tout raconter de ce qu'il y a sur les diapositives, parce que sinon on y est encore demain matin. Et en revanche, ces diapos seront sur notre site de la Pulpe en Vol, et vous pourrez les regarder à plaisir. Enfin, à plaisir, on n'en sait rien. Donc après Maxwell, fin du 19e siècle, on arrive aux années 1900 où là, tout s'accélère. Il y a eu d'abord une première révolution, c'est ce qu'on appelle l'ancienne théorie des quanta, avec Einstein, Max Planck et Niels Bohr. Et cette première théorie des quanta était nettement insuffisante, ce qui fait que dans les années 1925, là, les fameuses années folles, c'est là qu'on a développé la vraie mécanique quantique, la vraie révolution. La suivante. Alors, revenons à Aristote, 350 ans avant Jésus-Christ. Pour lui, à cette époque-là, en particulier en ce qui concernait la chute des corps, il pensait, et tout le monde pensait après lui, que plus le corps était lourd et plus il tombait vite. Jusqu'à ce que Galilée arrive, et lui, Galilée, il a fait une expérience de pensée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une expérience de pensée? C'est une expérience que l'on imagine, parce qu'on n'est pas capable de la faire, et rien que par la puissance de l'esprit, on arrive à poser une solution à un problème. Si je parle de ces variables, de cette expérience de pensée, ensuite la notion de variable cachée, c'est parce que pendant toute la période des années folles, des années 1925, les physiciens de cette époque n'avaient pas les moyens technologiques d'expérimenter ce qu'ils imaginaient, et ils faisaient des expériences de pensée. Et on y reviendra. Donc, pour vous donner une idée de ce que c'est qu'une expérience de pensée, Galilée a dit, bon, Aristote me dit que les corps le plus lourd tombent plus vite que les corps légers. Mais si j'attache un corps lourd avec un corps léger, par exemple une boule de pétanque avec une balle de tennis reliée par une corde, si je lâche le tout, ça va tomber plus vite que si c'est la boule de pétanque toute seule, puisque l'ensemble est plus lourd. Et inversement, comme la balle de tennis est plus légère et que d'après Aristote elle va tomber moins vite, elle va freiner la chute de l'ensemble balle de tennis, boule de pétanque. Donc il y a une contradiction. Et s'il y a une contradiction, c'est que l'hypothèse de départ est fausse. Donc ça veut dire que la loi de la chute des corps ne dépend pas de la masse. Et ça a été prouvé par la suite par Newton. Mais en attendant, il y a une expérience qui a été faite récemment, dans les années 1970, qui a coûté extrêmement cher, puisque c'était une expérience faite par des astronautes sur la Lune. Et on a vu un astronaute qui s'appelait Scott, qui lâchait une plume de faucon et un marteau. Et on a vu que ces deux-là tombaient ensemble sur le sol de lunaire. Donc c'est une expérience, mais c'est effectivement extrêmement, comment dirais-je, extrêmement visuel, important. C'est très cher aussi, parce qu'on voyait des astronautes sur la Lune, mais bon, on savait depuis longtemps que la loi de la chute des corps ne dépendait pas de la masse. Alors maintenant, la notion de variable cachée, c'est pareil. Pourquoi est-ce que Aristote pensait que les corps lourds tombaient plus vite que les corps légers? C'est en fait parce qu'il y a la résistance de l'air qui freine beaucoup plus la plume, par exemple, que la boule de pétanque. Mais ça, à l'époque, et même du temps de Galilée, on ne savait pas que la résistance de l'air pouvait jouer un rôle. Et c'est cette fameuse variable cachée qui permet de comprendre les choses par la suite. Et si j'insiste un peu sur ces choses un peu élémentaires, c'est parce que pendant très longtemps, pendant justement les années folles, il y a eu une controverse entre Bohr et Einstein justement sur ces problèmes de variables cachées. Et on y reviendra. Bon, je vais aller plus vite maintenant. Alors Isaac Newton, c'est la deuxième révolution autour de 1700. C'est l'unification de la mécanique terrestre et de la mécanique céleste, c'est-à-dire à la fois la chute des corps sur le sol et la chute des satellites, des planètes autour du Soleil, autour de la Terre, la Lune par exemple autour de la Terre, le Soleil, la Terre autour de la Lune, etc. Donc c'est une première unification, et je n'en rentrerai pas dans les détails, mais les physiciens ont toujours essayé d'unifier toutes les forces. Alors là, c'est la première unification. Il y en a eu d'autres, je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé la grande unification, la théorie unitaire, on est toujours en train de la chercher, ce qui permettrait de recombiner toutes les forces avec une seule équation. Alors, deuxième aspect de Newton, c'est que la lumière, pour lui, était constituée de corpuscules. Et il expliquait la réfraction, la réflexion d'un faisceau lumineux sur un dioptre O-R, par exemple, et tout ça en supposant que c'était des petits corpuscules, des petites billes solides qui réfléchissaient ou qui se réfractaient. Alors il trouvait les lois expérimentales, pour arriver à ça, il fallait que la célérité dans l'eau soit supérieure à celle dans l'air. Comme à l'époque, on ne savait pas mesurer les célérités, il pouvait toujours affirmer ça, il n'y avait pas de contradiction possible. Et alors, d'une façon assez amusante, Christian Huygens, qui était un physicien hollandais de la même époque que Newton, lui, il avait fait exactement les mêmes démonstrations, mais en supposant que c'était une onde. Et avec cette onde, eh bien, il supposait que la vitesse dans l'eau était plus faible que dans l'air, et c'est lui qui avait raison. Mais seulement, aucun des deux ne pouvait prouver réellement la véracité de ce qu'il disait. Et puis de toute façon, Newton étant beaucoup plus connu que Huygens, c'est lui qui a eu le dernier mot. Alors le dernier point aussi qui est important, parce que on va en reparler pendant l'époque des années folles, c'est la non-localité. Qu'est-ce que ça veut dire la non-localité? Eh bien, si vous jetez un caillou dans l'eau, vous voyez une onde qui se propage, donc de proche en proche. Et la non-localité, c'est quelque chose qui se propage instantanément, c'est-à-dire sans décalage de temps, sans rien. Par exemple, Newton pensait que si par hasard un objet tombait sur la Lune, instantanément on aurait la réplique sur Terre. Instantanément, c'est-à-dire avec un delta T, un écart de temps nul. C'est ce qu'on appelle la non-localité. Alors même Newton pensait que c'était complètement farfelu. Eh bien, vous allez voir, en physique quantique, la non-localité existe. Alors, la troisième révolution, c'est Maxwell. Dans les années 1860, où il a réussi à montrer toujours l'unification, pensez encore à Newton et sa théorie de la chute des corps terrestres et la chute des planètes autour de... Bref. Là, c'est pareil. La lumière, l'électricité et le magnétisme sont constitués par des ondes et elles obéissent toutes aux mêmes équations qu'on appelle les équations de Maxwell. Donc les choses, diapositive suivante, alors là c'est à cette période, voilà, de tout le courant du 19e siècle, d'abord avec des précurseurs comme Pierre de Fermat et de Maupertuis, où ils ont posé des principes qui sont extrêmement intéressants pour la suite, principe du moindre temps et principe du moindre action, mais je n'entrerai pas dans les détails. Et les noms qui suivent derrière, ce sont soit des mathématiciens, soit des physiciens qui ont permis de préparer la venue de la physique quantique par leur théorie. C'est donc une boîte à outils et qui a servi beaucoup plus tard. Alors, vous avez vu, j'ai écrit Jung et Fresnel. Par exemple, Jung était un Anglais qui était... Il faisait énormément de choses. Il a en particulier failli découvrir la traduction de la pierre de Rosette égyptienne avant Champollion. Heureusement, c'est Champollion, pas heureusement pour nous. Mais c'est Champollion qui l'a trouvé le premier. Mais vous voyez que c'était un homme qui était capable de faire beaucoup de choses. Il était d'ailleurs médecin par-dessus le marché. Et ce Jung s'est amusé à faire des expériences permettant de montrer que la lumière était effectivement une onde. Pour ça, il a pris une source lumineuse, ici, et il a éclairé un écran percé de deux trous, S1 et S2. Et à la sortie de ces deux trous, S1 et S2, qui se comportent comme des sources secondaires, on a des franges d'interférence que l'on voit ici, une photographie. Donc, il semblait bien que tout ce qui était ondulatoire, et tout ce qui était lumière, électromagnétisme, c'était bien ondulatoire. Alors, toujours au 19e siècle, quels étaient les moyens expérimentaux qui nous permettaient de voir la constitution de cette lumière? Vous avez vu au tout début qu'il y avait un spectre électromagnétique, un spectre de la lumière visible. Comment est-ce qu'on peut quantifier ça? Eh bien, on avait des appareils qui s'appellent les spectroscopes, qui sont très simples. En voici un de l'époque. Vous avez un prisme en verre qui s'amuse à diffuser la lumière blanche. Vous avez un exemple ici. Vous avez la source, qui est une source de lumière blanche, qui passe à travers le prisme, et à la sortie, vous avez un spectre continu qui vous donne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge au violet. On ne voit pas l'infrarouge par là, ni l'ultraviolet par là, parce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Mais ils existent, et si on met un capteur au-delà de ces couleurs, on voit que le capteur ressent quelque chose. Alors maintenant, si on prend un gaz dans une ampoule chauffée, par exemple de l'hydrogène gazeux, on fait la même expérience, on s'aperçoit qu'au lieu d'avoir un spectre continu, on a des raies qui sont bien positionnées et qui sont caractéristiques du gaz. Et alors maintenant, si on fait la même expérience en mettant, en éclairant avec de la lumière blanche ce gaz, mais froid, on obtient les mêmes raies ici qui sont superposées avec le spectre continu de la lumière blanche, mais qui sont cette fois-ci obscures. Ce sont des spectres d'absorption. C'est-à-dire que le gaz ici, il a des caractéristiques telles que la lumière, l'énergie, est absorbée à ces niveaux de raies spéciaux. Suivant. Alors, à la fin du 19e siècle, on pensait que la physique était complète. On avait à peu près tout trouvé, qu'il y avait causalité, déterminisme et localité. Localité, c'est-à-dire que les phénomènes se propagent de proche en proche. Certains disaient, ben, c'est plus la peine de continuer à faire de la physique, la seule chose qu'on va faire, c'est améliorer la précision des mesures. Et voilà, on a tout gagné. Il y en avait un qui pensait qu'il y avait quand même encore des problèmes, c'est Lord Kelvin, un Anglais. Il trouvait qu'il restait deux petits nuages pour avoir vraiment la compréhension complète de cette physique. C'était l'éther et la catastrophe ultraviolette. Alors extrêmement rapidement, qu'est-ce que c'est que l'éther? Vous savez que les ondes, elles doivent se propager dans un milieu. Par exemple, les ondes sonores, elles se propagent dans l'atmosphère. Elles ne se propagent pas dans le vide. Mais en revanche, la lumière du soleil, qui vient du soleil, elle se propage dans le vide interplanétaire jusqu'à nous. Donc ils pensaient, à l'époque, que c'était pas du vide, mais c'était quelque chose, une substance qu'on appelle l'éther, qui avait des propriétés extrêmement bizarres, mais qu'ils essayaient de trouver. Et c'est une expérience avec un interféromètre qui s'appelle Michelson et Morley, en 1890, ont montré que l'éther n'existait pas. Donc ça, c'était un premier problème. Comment est-ce que des ondes qui ont besoin d'un support physique peuvent se propager dans le vide? Le deuxième problème, c'est ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette. C'est-à-dire que lorsque vous chauffez un corps, vous avez un rayonnement de ce corps. Et si on fait des mesures de l'intensité de ce rayonnement en fonction de la longueur d'onde émise par le corps chauffé, on a une courbe expérimentale qui a cette allure-là, et ça c'est pour une température T donnée, et les théories de l'époque, de Rayleigh-Jeans en particulier, montraient que cette courbe s'en allait vers l'infini, c'est ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette, ça veut dire que l'intensité devient infinie, et donc si vous chauffez, vous finissez par vous faire sauter la figure. Évidemment, on n'a jamais remarqué ça. Alors c'est là que on a commencé à trouver des explications à tout ça. Et c'est là le début de l'ancienne théorie des quantas. Le premier ayant trouvé une explication, c'est Max Planck en 1900. Il a, pour retrouver les courbes expérimentales que je viens de vous montrer, il a supposé que l'énergie rayonnée par la matière était constituée de petits grains discontinus, les quantas, et sous la forme de E égale H nu, E c'est l'énergie, nu c'est la fréquence, et H c'est la constante de Planck, qui est très petite, elle vaut 6,62 10 puissance moins 34. C'est-à-dire que vous avez 0 suivi de 33 zéros, puis 6,62. Donc c'est tout petit, vous voyez bien qu'on est dans le domaine microscopique. Eh bien, cette toute petite discontinuité a permis de retrouver des lois expérimentales. Alors à l'époque, les physiciens disaient, bon, c'est une astuce de calcul, c'est pas, il n'y a rien de sorcier. Eh bien, Planck était beaucoup plus profond que ça, et effectivement, Einstein a montré que Planck avait raison et que ça allait beaucoup plus loin que ce qu'avait trouvé Planck. Alors, en 1905, Einstein, à l'époque, il était jeune, vous voyez, il est né en 1879. Il a fait ses études à l'école polytechnique de Zurich, et en sortant de l'école, il a trouvé un boulot d'examinateur de brevets à l'office des brevets à Berne, en Suisse. Et il a eu le temps, comme ça, de potasser toutes les demandes de brevets, de comprendre les stupidités qui pouvaient être présentées, et de réfléchir. Et en 1905, il a écrit trois articles absolument remarquables. Le premier sur l'explication de l'effet photoélectrique, c'est-à-dire qu'il a montré, alors que Planck avait montré que l'énergie qui était rayonnée était quantique, lui, il a montré que l'effet photoélectrique s'expliquait par le fait que c'est la lumière elle-même qui est quantifiée. Et on a toujours la même formule E égale H nu. Je passe très rapidement sur les deux autres articles qu'il a publiés, mais le deuxième, il montrait par le mouvement brownien la nature atomique de la matière, et le troisième, il est connu de tout le monde, c'est la relativité restreinte. Sachant qu'il a encore travaillé une dizaine d'années pour développer la relativité générale qu'il a présentée en 1916. Alors le troisième larron dans cette affaire des anciennes théories des quantas, c'est Niels Bohr, qui est un Danois, qui est à peu près contemporain, un peu plus jeune que Einstein. Et lui, pour être un peu précis, on avait déjà des modèles atomiques. On avait d'abord le modèle de J.J. Thomson, qui est ce qu'on appelait le modèle Plum-Pudding, où les électrons étaient enfouis dans une grosse boule chargée positivement, sachant que les électrons sont chargés négativement. Et bon, ce modèle-là, il n'a pas fait long feu, ou il a fait long feu plutôt. Et c'est un autre modèle développé par Ernest Rutherford, un néo-zélandais qui travaillait à Manchester, oui, qui a développé un modèle planétaire, c'est-à-dire qu'il a supposé que le noyau, il y avait un noyau qui était chargé positivement et que les électrons gravitaient autour. Alors c'était bien beau tout ça, mais si on appliquait la théorie de Maxwell à cette configuration, les électrons sont obligés de rayonner et en rayonnant ils perdent de l'énergie et en perdant de l'énergie ils perdent de l'altitude et ils finissent par tomber très rapidement sur le noyau. Donc ce n'était pas une explication satisfaisante. Alors Bohr, lui, il a dit, ben, puisque c'est comme ça, je vais supposer que les électrons se promènent sur des cercles, et tant qu'ils sont sur ce cercle-là, ils ne rayonnent pas. Et c'est uniquement lorsqu'ils sautent d'un cercle à un autre qu'ils se mettent à rayonner. Pardon, l'expression qu'on voit là-haut, et on a encore le delta E égale H nu. Et là, on explique très... Avec ce modèle-là, on explique très bien les raies dont j'ai parlé tout à l'heure avec la spectroscopie. Alors, Niels Bohr s'est fait aider par Arnold Sommerfeld, un Allemand de l'Université de Göttingen, qui, avec tous les deux, ils ont développé un peu plus précisément cette théorie. Ils ont supposé que non seulement il y avait des trajectoires circulaires, mais aussi des trajectoires elliptiques, et ils ont introduit une onde quantique. Des nombres discrets, le nombre quantique principal, le nombre quantique azimutal, le nombre quantique magnétique, qui apparaissaient lorsque, justement, en spectroscopie, on introduisait des champs électriques et des champs magnétiques. On voyait des dédoublements de raies, et ces dédoublements de raies, ils s'expliquaient justement par ces nombres N, 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 N et M. Donc tout ça était très bien, ça a marché pendant un certain temps, mais il faut voir que la technologie avançant, les mesures étaient de plus en plus précises, et étant de plus en plus précises, elles s'éloignaient de plus en plus de la théorie de Bohr-Sommerfeld. Et donc la guerre est arrivée, ça a un peu ralenti les choses, il y a beaucoup de jeunes savants prometteurs qui sont morts dans ce carnage. Et maintenant, on arrive après la guerre de 1914-1918. Alors, une aparté, parce qu'on se demandait toujours, est-ce que c'est une onde, est-ce que c'est une particule? Vous avez vu, du temps de Newton, déjà, on avait, Newton pensait que c'était la lumière, c'était constitué de particules, de grains de lumière. Huygens pensait que c'était une onde. Alors c'est quoi? Eh bien, justement, les équations de Maxwell, elles sont là pour nous montrer que ça peut être l'un ou l'autre. Vous avez ce qu'on appelle l'optique physique, avec les phénomènes d'interférence et de diffraction. Et cette optique physique obéit aux lois, aux équations de Maxwell, pures et dures, telles qu'elles sont, elles ont été développées. Et si on fait l'approximation que la longueur d'onde tend vers zéro, à ce moment-là, ces équations se simplifient et on peut trouver des trajectoires. Oh, tiens, ça marche mieux. Des trajectoires, des rayons lumineux, effectivement, qui permettent d'expliquer la réflexion, la réfraction, etc. Tous les systèmes optiques, les instruments d'optique, les microscopes, les lentilles, etc., j'en passe des meilleurs. Donc déjà, vous voyez que onde et corpuscule, c'est déjà très très lié. Mais là, on reste encore dans la physique classique. Alors, voilà, on rentre dans le vif du sujet après un certain temps. Mais je pense que c'était nécessaire pour que ça ne soit pas trop abrupt. La révolution quantique. Alors, le premier qui a commencé à faire évoluer les choses, c'est Louis de Broglie, un Français, qui, 1892-1987, il avait une trentaine d'années, enfin, il était plus jeune que ça quand il a passé sa thèse. Il se trouve qu'il a passé sa thèse en 1924 et il a il a développé l'idée qu'il y avait une onde qui pilotait la particule. C'est la théorie de l'onde pilote. Et il a posé que P est égal à H sur lambda. P, c'est l'impulsion de la particule, c'est-à-dire la quantité de mouvement. L'impulsion, quantité de mouvement, c'est la même chose. Et une quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse de la particule, MV. Et la longueur d'onde de l'onde, c'est lambda. Et on relie P et lambda, la longueur d'onde de De Broglie. Alors, c'était un peu gonflé. Il a quand même eu sa thèse, mais les examinateurs ne savaient pas trop quoi en penser. Et Langevin, qui était le patron du jury, Paul Langevin, qui était un physicien remarquable pour l'époque, il connaissait bien Einstein, parce que c'est Langevin qui avait introduit la relativité en France, la relativité développée par Einstein, et c'est Langevin qui l'avait développée en France. Qu'il avait représenté. Donc ils se connaissaient bien et Langevin a envoyé la thèse de Broglie à Einstein. Et Einstein a tout de suite sauté en l'air, il a découvert quelque chose. Il a soulevé un coin du voile. Et Einstein connaissait bien, parce que là Einstein n'était plus à l'université, il n'était plus du tout à Berne, au service des brevets. Compte tenu de tout ce qu'il avait fait, il avait eu un poste de professeur à l'université de Berlin. Donc c'était déjà quelqu'un de connu et de reconnu. Et il connaissait donc un certain nombre de physiciens autour de lui, et en particulier un nommé Schrödinger, next one. Et ce Schrödinger, c'est un Autrichien aussi. Einstein était allemand, lui il est autrichien. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'Autrichiens et d'Allemands dans cette affaire. Et lui, il a repris les idées de De Broglie, mais il est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à écrire une équation, la fameuse équation de Schrödinger. Et ça date de 1925, et c'est cette équation qui est l'introduction à la mécanique, ce qu'on a appelé la mécanique ondulatoire. Alors cette fonction psi, elle était pas très, c'était pas très clair ce que ça représentait. Schrödinger pensait que c'était un paquet d'ondes, c'était un ensemble d'ondes qui étaient de fréquences très voisines les unes des autres. Et les choses n'étaient pas très claires. À tel point qu'il y a eu ici un petit pamphlet qui était en allemand, mais traduit en français. Je vous le lis. Erwin ne cesse de calculer avec son psi ondulatoire. Mais à quoi ça peut ressembler? Ça, on aimerait bien le savoir. Eh bien, c'est la suite. C'est Max Born, un autre Allemand, qui a trouvé la signification de cette fonction-ci. C'est en fait une densité de probabilité de présence de l'électron autour du noyau. Et vous voyez, là, le déterminisme, il en prend un sacré coup. C'est-à-dire que la particule, on ne sait pas du tout où elle est, finalement. Elle est dans un nuage de probabilité. Et ça se complique. Parce que le troisième larron, Werner Heisenberg, lui, il a complètement changé son fusil d'épaule, alors que De Broglie et Schrödinger essayaient toujours de se raccrocher à la physique classique. L'équation de Schrödinger, c'est une équation dérivée partielle du second ordre, qui se résout facilement, c'était connu mathématiquement depuis la fin du 19e siècle, il y avait des valeurs propres, etc. Et on trouvait naturellement des nombres quantiques que Bohr et Sommerfeld avaient du mal à trouver d'une façon semi-empirique. Et on retrouvait d'une façon rigoureuse, en particulier pour l'atome d'hydrogène, ces nombres quantiques d'une façon absolument merveilleuse mathématiquement. Mais on n'avait pas encore tout trouvé. Et justement, Heisenberg a eu une position totalement différente. Lui a dit, moi j'en ai assez d'observer, de penser que les électrons gravitent autour d'un noyau suivant des circonférences ou des ellipses. Moi je ne veux m'occuper que de ce que je peux observer, c'est-à-dire les résultats, des mesures, des raies spectrales et de leur intensité. Et il a fait sa cuisine, les observables. Il a fait sa cuisine et il s'est aperçu qu'avec des tableaux de nombres, ces tableaux finalement étaient des matrices, les fameuses matrices qui avaient été développées au 19e siècle par Cayley, etc., Sylvester, j'en passe. Donc cette mécanique matricielle était complètement différente de la mécanique ondulatoire. Et ça a créé des discussions sans fin entre Schrödinger et Heisenberg. Mais finalement, très rapidement, au bout d'un an, ils sont finis par se mettre d'accord que c'était deux façons différentes de dire la même chose. Alors, ces deux relations ici, qui sont des relations de principe d'indétermination, elles sont très connues, et je ne vais pas les expliquer dans le détail, mais on peut les comprendre intuitivement, dans la mesure où ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne peut pas mesurer précisément à la fois la position d'une particule et sa vitesse. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est que si vous voulez mesurer, par exemple, la position d'une particule, vous avez besoin de l'éclairer pour savoir où elle est, et puis de l'éclairer un peu après pour savoir où elle est allée et pour déterminer sa vitesse. Or, quand vous l'éclairez, pour que vous puissiez la voir, il faut que vous ayez un instrument d'optique qui ait une longueur d'onde dont la lumière ou l'énergie radiative et dont la longueur d'onde soit de l'ordre de grandeur de la particule. Or, un électron, pour vous donner un ordre d'idée, ça n'a pas de, puisque c'est un nuage de densité, ça n'a pas de rayon proprement dit. Mais on peut faire un calcul approché et on trouve qu'il est de l'ordre de 3 Fermi. Fermi, c'est une unité de mesure qui vaut 10 puissance moins 15 mètres. Donc, oui, l'électron, c'est tout petit, c'est de l'ordre de grandeur d'un noyau. Et donc, il faut donc que vous éclairiez votre électron avec une lumière dont la longueur d'onde est à peu près celle-là. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fréquence est extrêmement élevée, puisque la longueur d'onde est très petite. Rappelez-vous, lambda, c'est 1 sur f. Voilà, c'est c sur f. Donc, si vous avez toujours E égale h nu, comme le nu est très élevé, ça veut dire que l'énergie est très forte. Et si vous éclairez votre particule avec une énergie très forte, ça veut dire que vous allez la perturber, elle va bouger de sa position initiale. Vous n'aurez jamais sa position réelle. Et ce n'est pas une question d'imprécision dans les mesures, c'est inhérent à la physique proprement dite. Alors, autre chose, la dualité entre corpuscules. On n'arrête pas de parler d'ondes, de corpuscules, et il y a une certaine dualité. On a vu que l'électron et le photon, le photon, la particule de lumière, l'électron, la particule de matière, se comporte comme une onde ou comme une particule, suivant le cas. Et il y a certains physiciens, comme Lévi Leblond, qui ont pensé qu'on pouvait donner un nom à cette nouvelle onde-particule, entre guillemets, et il a parlé de quantum. Bon, c'est pas un terme qui est vraiment à la mode, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ni une onde ni une particule. Et pour le schématiser par un tableau de l'époque justement des années folles, Picasso, vous avez à la fois un visage qui vous regarde de face et de profil. Ben, c'est la dualité onde-corpuscule. Alors, autre chose importante, c'est le principe de complémentarité. Vous avez vu que les fentes de Young, une source lumineuse, deux fentes secondaires et des interférences lumineuses, on peut faire la même chose avec, par exemple, des électrons, qui sont a priori des particules. Et vous voyez que lorsque on a sur l'écran, il arrive des électrons petit à petit, ou quelques électrons, ils sont dispersés sur l'écran d'une façon complètement aléatoire. Et puis au fur et à mesure que vous en rajoutez, là c'est pour 1000 électrons, 10 000 électrons, etc. Pardon. Vous avez les franges d'interférence qui se forment. Donc là aussi, vous avez a priori des particules qui se transforment en ondes. Donc le principe de complémentarité, eh bien, il est représenté ici. Ce sont deux aspects complètement exclusifs de la réalité. C'est-à-dire que si on fait une expérience de telle façon qu'on veut obtenir un résultat qui correspond à des ondes, ça sera des ondes, et l'inverse pour des particules. Il n'y a pas possibilité de voir le quantum lui-même. Il est toujours complémentaire. Ou c'est une onde, ou c'est une particule dans sa manifestation. Mais dans la réalité, il est les deux. C'est-à-dire que, par exemple, dans les franges de Young, les franges d'interférence, quand vous avez un photon, il passe par les deux fentes à la fois. C'est extrêmement étonnant, parce que ça perturbe le sens commun, c'est évident. Et il y a des manipulations qui ont été faites récemment, en 2007, où là, c'était une expérience de pensée, développé par un autre physicien américain, cette fois-ci, John Wheeler. Et c'est l'expérience du photon unique à choix retardé. C'est-à-dire qu'au dernier moment, le photon il se promène, on ne sait pas comment il est, on ne sait pas si c'est une onde ou une particule, mais au dernier moment, avant de l'observer, on fait en sorte que, aléatoirement, on le fait passer à travers un dispositif qui le transforme en onde ou en particule. Et bien, à chaque fois, on se fait avoir. C'est-à-dire que c'est comme si le photon, il voit au loin le dispositif, il dit « Ah, ils veulent que je sois une particule, et là, je vais me transformer en particule. Ah, ils veulent que je sois une onde, je me transforme en onde. » Et cette expérience a été faite récemment, je vous dis, par l'École normale supérieure de Cachan, avec l'université d'Orsay, l'Institut d'optique. En particulier, il y avait dans les gens qui ont travaillé là-dessus, Alain Aspect, dont je parlerai un peu plus tard. Donc là, c'est une représentation un peu artistique de ce que pourrait être la complémentarité. C'est un tableau de Magritte. Donc toujours à la période des années folles, et vous voyez que le corps se confond avec la terre, et cette belle jeune femme se confond avec le ciel. Voilà, c'est une idée de ce que pourrait être la complémentarité. Ça vaut ce que ça vaut. Alors, on a vu la dualité onde corpuscule, la complémentarité, encore quelque chose d'étonnant, c'est la superposition. La superposition, ben, ça veut dire que lorsque votre particule est dans un état, elle peut être dans différents états. État 1, état 2, état 3, état 4, etc. Et ils sont superposés linéairement. Et ce n'est que lorsqu'on fait la mesure qu'on a un des états qui se manifeste. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, par exemple, ici, vous avez un chat qui est à la fois mort et vivant. Il est dans un état superposé. On y reviendra. C'est un peu comme, si vous voulez, cette superposition. Vous avez, c'est le pauvre qui a ça, c'est pas très drôle, parce qu'il peut être manchot, aveugle et unijambiste. Et il peut avoir les trois en même temps. Donc, pour continuer dans la progression des connaissances, est arrivé Wolfgang Pauli, un Autrichien. Vous voyez qu'il était très jeune, parce qu'il a trouvé ça dans les années 1926. Il avait quoi, 25 ans, 26 ans. De même qu'Heisenberg, je ne sais pas si vous avez remarqué son âge, il est né en 1901, et il a trouvé la mécanique matricielle date de 1925, 1926. Ça veut dire qu'il avait aussi 25-26 ans. Et Pauli, il a trouvé un quatrième nombre quantique, j'ai parlé des nombres quantiques NL et M, c'est le nombre quantique de spin. Alors c'est quoi le spin? Eh bien, au début on pensait que c'était ce qu'on appelle le moment cinétique de la sphère ici. Et vous voyez Pauli ici avec Bohr qui sont en train de regarder une toupie tourner. Donc ça c'est le spin de la tournée. Spin ça veut dire tourner en anglais. Ben, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Il a aussi développé le principe d'exclusion qui a permis de comprendre parfaitement comment la table de la classification périodique des éléments se constituait. Cette table périodique de classification des éléments a été développée au tout début par un russe qui s'appelait Mendeleïev dans les années 1860. Elle a été reprise du temps de Bohr et on commençait à comprendre comment les liaisons chimiques pouvaient se faire entre atomes grâce à ça, puisque c'était des relations entre électrons. Et avec le principe d'exclusion de Pauli, on a complètement déterminé cette classification périodique des éléments. Bon, là c'est pour... Là vous avez Einstein et Pauli en train de discuter. C'est aussi une des grandes caractéristiques de cette période, c'est que tous ces physiciens, jeunes ou vieux, d'abord ils étaient tous universitaires, ils étaient soit à l'université de Munich, d'Innsbruck, de Vienne, de Berlin, bien sûr, à Copenhague, en Angleterre, à Manchester, Cambridge. En France, il y avait Paris. Encore que les Français étaient vraiment en arrière par rapport à tous ces physiciens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se voyaient très souvent. Il y avait des congrès. J'en parlerai tout à l'heure, les congrès Solvay qui avaient lieu tous les 3 ans. Mais ils allaient de labo en labo, ils se recevaient et ils travaillaient ensemble. C'était vraiment du travail en coopération. Et des gens plus âgés comme Bohr et comme Einstein, avec des gens plus jeunes comme Heisenberg ou Pauli. L'effet Pauli, c'est que c'était un théoricien pur et dur. Et lorsqu'il rentrait dans un labo expérimental, et on était sûr que la machine allait rater. À tel point qu'une fois où il était en train, je crois que c'était à Göttingen, il s'était arrêté à la gare de Göttingen, mais il était resté dans son train, il attendait que le train démarre pour aller à sa destination finale. Et il y avait une expérience en cours à l'université de Göttingen, pas très loin, et l'expérience a raté. Et la réaction tout de suite des expérimentateurs, c'est de demander où était Pauli. La suivante. Alors voilà aussi un être remarquable, Paul-Adrien Dirac, un Anglais. Son père était Suisse et ses grands-parents étaient Français de la ville de Dirac dans l'ouest de la France. Et il parlait français. C'est curieux pour un Anglais, mais bon. Et lui... Il a développé, il est allé beaucoup plus loin que Schrödinger, parce que l'équation de Schrödinger, elle était non relativiste, c'est-à-dire qu'elle n'était valable que pour des vitesses d'électrons faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Et Dirac est allé beaucoup plus loin, il a développé une équation relativiste où la vitesse des électrons pouvait être quelconque. Et les conséquences de cette équation, c'est qu'il a mis en évidence la possibilité d'antimatière. Et on a trouvé effectivement très rapidement le positron, qui est l'électron positif, en 1932. C'est un Américain qui a fait l'expérience, qui s'appelle Anderson, en mesurant des rayons cosmiques. Alors, je pourrais peut-être préciser qu'au tout début, à la fin du 19e, les mesures se faisaient avec des appareils assez peu compliqués, comme les spectroscopes, qui se sont améliorés au lieu d'un prisme qu'on mettait dans un réseau, etc. Ensuite, on a eu les chambres à bulles, j'en passe, les accélérateurs, mais jusqu'aux années 1940, on n'avait pas de très gros moyens expérimentaux. Et on utilisait souvent les rayons cosmiques, c'est-à-dire des protons qui viennent du Soleil, qui sont extrêmement énergétiques, pour essayer de comprendre un peu mieux les choses. Et donc c'est Anderson, en faisant des expériences sur ces rayons cosmiques, qui a trouvé le positron. Bon, il a fait beaucoup d'autres choses, Paul Dirac. Il a aussi développé ce qu'on appelle la seconde quantification, c'est-à-dire des opérateurs de création et d'annihilation de particules. Cette seconde quantification, c'est la première quantification, c'est la quantification de l'énergie. Et la seconde quantification, c'est carrément la quantification du champ. Et c'est d'ailleurs le précurseur de la physique quantique des champs qui a été développé après les années 40 par Feynman et d'autres. Donc voilà les cinq caractéristiques de la genèse de cette nouvelle physique. D'abord, ça s'est passé en Europe. Et en Europe continentale et un peu en Angleterre. Mais en Europe de l'Ouest. Vous voyez les centres ici, vous avez Rome, vous avez... J'arrive pas à lire, mais vous avez Genève, vous avez Zurich, vous avez Göttingen, vous avez Berlin, vous avez Copenhague, etc. Et on peut appeler ça le théâtre quantique, pour paraphraser, ou avec le théâtre classique. Le théâtre classique, vous le connaissez, c'est l'époque de Molière, Racine, etc., avec l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Là, l'unité d'action, c'est très clair, hein, c'est toujours le même sujet, c'est la physique quantique. L'unité de lieu, bah, c'est l'Europe et une certaine partie de l'Europe. Et l'unité de temps, c'est quelques temps, en 3-4 ans, on a tout développé. Donc c'est assez remarquable. Le deuxième aspect, ce sont des échanges constants entre les physiciens. C'était encore pas très courant au 19e siècle que les labos s'ouvrent à d'autres labos pour travailler ensemble. Alors qu'à cette époque-là, c'était vraiment... Il y avait un engouement tel que les physiciens étaient toujours chez les uns et chez les autres, et ils discutaient beaucoup. Et une imagination fertile. C'est-à-dire que, comme la technologie à l'époque n'était pas assez développée, il fallait bien qu'ils essaient de comprendre, d'expliquer les choses et de trouver des idées avec ces expériences de pensée. Il y en a eu plein. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, je vous en ai parlé de quelques-unes. Le quatrième point, c'est la jeunesse et l'audace de ces physiciens. À tel point que, par exemple, en Allemagne, tous ces jeunes, comme Heisenberg, Pauli, etc., c'est la Knabenphysik, c'est-à-dire la physique des gamins. Et en Italie, c'était les ragazzi de la Via Panisperna. La via Panisperna, c'est l'adresse de l'Institut de physique théorique de Rome. Donc, et voilà, par exemple, voici de jeunes Italiens autour de Enrico Fermi, dont vous avez certainement entendu parler. Next one, please. Alors, tout ça s'est consolidé au congrès Solvay de 1927. Le congrès Solvay de 1927. Qui est Monsieur Solvay? Monsieur Solvay était un mécène, c'était un industriel belge qui avait fait fortune dans la soude caustique. Et il finançait régulièrement, tous les 3 ans, un congrès avec les physiciens, justement, toute cette nouvelle physique, pour voir l'évolution des connaissances. Alors à ce congrès Solvay, 1927, les choses ont été à peu près mises sur la table et réglées, Il y avait encore des questions. Par exemple, De Broglie n'était pas d'accord avec la position de Bohr et il a fini par être d'accord à la fin du congrès. C'est sur l'interprétation dite de Copenhague. Et là, sur cette photo, on peut voir qu'il y a une trentaine de personnes, et sur ces 30 personnes, il y en a au moins la moitié qui ont déjà le prix Nobel ou vont l'avoir. Alors, les plus connus, vous avez Max Planck, ici, qui est déjà assez âgé. Vous avez Marie Curie. Vous avez Einstein, ici. À côté, vous avez Langevin, dont j'ai déjà parlé. Juste au-dessus, vous avez Dirac, ici. Vous avez Schrödinger, ici. Vous avez Pauli, ici. Heisenberg. Et j'en passe, parce que ils sont tous très connus dans le domaine de la physique. Ils ont tous fait des découvertes plus ou moins importantes. Alors, justement, à la fin de ce congrès de 1927, on a établi ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de mesure, eh bien, il n'y a aucun résultat. C'est la fameuse superposition des différents états. Vous avez des possibilités avec une certaine probabilité que ces états existent, mais c'est uniquement la mesure qui vous permet d'obtenir un résultat. Ça, c'est assez surprenant. Et ça veut dire aussi, alors on l'a expliqué comme ça, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que Schrödinger pensait que l'électron, c'était un paquet d'ondes qui se déplaçait. Il y a des fréquences des ondes avec des fréquences voisines les unes des autres. Et ce paquet d'ondes, donc, qui représente une superposition d'ondes, lorsqu'on fait la mesure, il s'effondre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une de ces ondes qui reste au lieu de toutes les autres. Et donc, cette réalité dépend à la fois de la mesure et de l'opérateur. Alors ça aussi, c'est très surprenant et c'est pas facile à admettre. D'ailleurs, il y en a deux qui n'ont pas admis, c'est Einstein et Schrödinger, qui étaient contre cette interprétation de Copenhague, qui avait été acceptée par tous les autres. Hein. C'était Bohr qui était l'initiateur, mais Heisenberg, Pauli, Born, etc., ils étaient d'accord avec cette interprétation. Mais Einstein et Schrödinger n'étaient toujours pas d'accord. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais pour Einstein, il y a un principe de réalité qui fait que si quelque chose existe, il faut que ce soit indépendant de la façon dont on le mesure. En gros, c'est ça. Et pour lui, donc, c'est que la physique quantique, malgré ses beaux résultats, parce que tous les résultats expérimentaux qu'on obtenait à l'époque, étaient en concordance avec la théorie. Mais tous ces résultats expérimentaux, ce n'était pas suffisant pour lui. Ce n'était pas parce que c'était efficace que c'était suffisant. Et il pensait que la théorie quantique était incomplète. Il y avait des variables cachées, souvenez-vous de l'expérience de Galilée, enfin l'expérience de pensée de Galilée. Et Schrödinger, lui, pour rendre les choses un peu plus amusantes, a inventé une expérience de pensée. Il a pris un chat, il l'a enfermé dans une boîte, et ce chat, dans cette boîte, il y a un dispositif diabolique dans lequel vous avez une source radioactive qui n'émet qu'une particule dans l'heure, pendant une heure, on ne sait pas quand, mais une particule dans l'heure. Et si elle émet cette particule, elle est envoyée sur un dispositif qui se met en route, il y a un marteau qui tombe, qui écrase une ampoule de cyanure et ça tue le chat. Et donc avec l'interprétation de Copenhague, Schrödinger disait, c'est sûr, parce que votre chat, dans cette boîte-là, il est à la fois mort et vivant, puisqu'il y a deux superpositions d'états. Et c'est uniquement quand on ouvre la boîte qu'on voit si le chat est vivant ou s'il est mort. Bien. Alors, et après le congrès de 1927, il y a le congrès de 1930. Et là, le congrès de 1930, Einstein a encore essayé de contredire Bohr. Et il a trouvé encore une expérience de pensée extrêmement subtile que Bohr n'a pas réussi tout de suite à démonter. Il a fallu une nuit de réflexion pour arriver à trouver la faille. Mais il a réussi à la trouver. Donc Einstein est obligé d'admettre qu'il n'avait pas, il n'avait pas le dernier mot. Et dans les années 1930-1931, toute cette physique a été axiomatisée mathématiquement en utilisant justement les travaux d'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, David Hilbert. Et ces travaux ont été, enfin, ces deux livres sont très connus. C'est l'un écrit par von Neumann, qui est un Hongrois d'origine, et l'autre par justement Paul-Adrien Dirac. Alors, une petite anecdote aussi amusante. Je vous ai dit que Einstein, en 1905, il avait développé la théorie de la relativité restreinte. Eh bien, il était en concurrence avec un mathématicien français, très, très connu, et un des très grands mathématiciens français, de la fin du 19e, début du 20e. Il s'agissait d'Henri Poincaré. Et c'est quand même Einstein qui est le premier à développer cette théorie de la relativité. Et en 1916, lorsque Einstein a développé cette théorie de la relativité générale, là, il était en concurrence avec David Hilbert. Et c'est encore Einstein qui a gagné devant Hilbert. Ce qui ne veut pas dire que la physique est supérieure aux mathématiques, je ne dirais pas jusque-là. Alors 1933, c'est une année épouvantable pour le monde, parce que c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne. Et tous ces physiciens, tous ces savants, qui étaient généralement d'origine juive, ont été obligés de s'enfuir. Là, je vous ai donné une liste de tous ceux les plus connus, mais je voudrais insister sur les femmes, parce que on ne parle pas beaucoup des femmes, mais il y en a qui sont très bonnes aussi. Bon, ça, c'est pas rigolé. Par exemple, Émilie Notaire. Elle est morte assez jeune, 1882-1935. Elle a été obligée d'émigrer aux États-Unis en 1933. Et malheureusement, elle est morte parce qu'elle a été obligée de subir une opération chirurgicale. Et les suites, elle est morte des suites de cette opération. C'est très dommage. C'est une femme qui a fait faire des progrès énormes à la physique, en mathématiques et à la physique, en développant des théorèmes sur à la fois les lois de conservation de la physique et les lois de symétrie. Donc, Lise Meitner, c'est aussi une autrichienne, juive bien sûr, qui a travaillé avec Anne Strassmann sur la fission atomique. Et elle est partie aux États-Unis, où elle a continué son travail. Et d'ailleurs, tous ces gens que vous voyez ici, ils sont partis, grande partie aux États-Unis, et ils ont participé au projet Manhattan, qui était le développement de la bombe atomique en 1942 aux États-Unis. Alors, on n'a pas fini. Einstein, lui, il s'accrochait à son idée que la physique quantique était incomplète. Donc il a repris toute cette interprétation de Copenhague. Il est arrivé à une conclusion bizarre, qui est notée ici. C'est que si on prend deux photons ou deux électrons qui viennent d'un même atome, on arrive à montrer qu'ils sont, une fois qu'ils se sont rencontrés, même si on les sépare, s'ils sont très loin l'un de l'autre, ils sont absolument corrélés l'un avec l'autre. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait un mouvement, l'autre fait exactement le même mouvement. Ah bon, c'est un peu plus physique que ça. Bon, et ça veut dire que la notion de localité a complètement disparu, puisque vous pouvez avoir par exemple un photon qui est là, et puis un kilomètre plus loin, le photon qui, son frère en fait, son jumeau, eh bien, il va subir les mêmes modifications que le premier. Et ça, instantanément. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une information qui est transmise de l'un à l'autre. Parce que pour savoir que l'un a bougé et que l'autre a bougé de la même façon, il faut qu'on se téléphone pour dire, ben, celui-là, il vient de faire ça, et qu'est-ce qu'il a fait l'autre ? Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe PR pour Einstein, Podolsky et Rosen. Podolsky et Rosen étaient deux étudiants d'Einstein, parce qu'à cette époque, Einstein avait quitté l'Allemagne en 1933, il était à Princeton aux États-Unis, et continuait à faire de la recherche. Donc, avec cette nouvelle expérience de pensée, il était toujours persuadé qu'il y avait des variables cachées, même s'il était tout seul à le penser pratiquement. Parce que 1935, il y avait les résultats expérimentaux qui étaient en parfaite concordance avec la physique quantique telle qu'elle était développée par l'interprétation de Copenhague. Et puis, il y avait la guerre qui menaçait, on avait d'autres chats à fouetter que de réfléchir sur ces choses-là. Puis Einstein commençait à être vieux et les jeunes physiciens pensaient que c'était un gâteau. Alors, c'est donc la fin des années folles. Et ensuite, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, hein, même si les années folles c'est terminé, c'est les expériences de pensée qui deviennent une réalité. Alors la première, la voici, en 1964, ça fait donc pas mal de temps, après le paradoxe EPR, ça fait pratiquement 30 ans, John Bell, qui était un physicien irlandais, il a eu la chance de faire une année sabbatique au CERN à Genève. Et une année sabbatique pour un physicien, c'est quelque chose de formidable parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Et donc il a fait ce qu'il voulait. Et pendant cette année, et lui, il pensait profondément qu'Einstein avait raison. Donc il a cherché à trouver un moyen de fabriquer, en quelque sorte, une expérience qui puisse montrer lequel des deux avait raison, si c'était Bohr ou Einstein. Donc il a développé ce qu'on appelle l'inégalité de Bell, qui permet de voir lequel des deux a raison. Et vous voyez apparaître cette inégalité en haut, sur le tableau noir. Vous voyez que si c'est plus petit ou égal à 2, c'est Einstein qui a raison, mais si c'est plus petit ou égal à 2 racine de 2, c'est-à-dire 2,8, en gros, c'est la mécanique quantique de Bohr qui a raison. Alors, à l'époque, en 1964, là, on avait un moyen, même si c'était un moyen que théorique, de trouver de trancher le débat entre Bohr et Einstein. Et il a fallu attendre 1982, c'est-à-dire que entre 64 et 82, il y a eu des expériences qui ont été faites, mais la technologie n'était encore pas suffisamment développée pour être sûr des résultats. Et le premier résultat sûr date de 1982, où il y a une démonstration expérimentale faite par justement Alain Aspect, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, à l'Institut d'Optique d'Orsay. Et là, il a démontré qu'il y avait bien l'implication de photons sur une petite distance, ça fait 10 mètres là. Mais depuis, on a fait bien mieux, on est arrivé à 140 km et tout ça a été complètement vérifié depuis 1982. Et donc, c'est bien Bohr qui avait raison et l'interprétation de Copenhague. Alors, c'est pas pour autant qu'on a fini de réfléchir à cette interprétation. J'en ai donné ici quelques exemples. Je ne rentre pas dans le détail, mais bon, il y a l'interprétation orthodoxe, Bohr et Heisenberg, Pauli, Stephen Hawking, que vous pouvez connaître de nom en tout cas, un physicien astronome anglais. Et à côté de ça, il y a des quantités de théories en parallèle qui se sont développées pour essayer de contrer cette interprétation de Copenhague. Alors il y a la théorie de l'onde-pilote, de De Broglie et de David Bohm. Il y a les univers multiples, alors ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire que je vous ai parlé des superpositions d'états. Vous avez N superpositions d'états, et bien chacun de ces états se trouve dans un univers différent. Bon, alors il faut les relier après. Là c'est pas très simple. Je l'ai mis en gras parce que la réduction spontanée de la décohérence, c'est une théorie qui date des années 70, et qui a beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, Serge Haroche, qui est un Français, a eu le prix Nobel en 2012, c'est récent. Cette théorie-là, elle est encore en plein développement, et ça permettrait de faire un ordinateur quantique. J'y reviendrai. Bon, y a même des choses un peu curieuses, comme l'intrication serait un tunnel spatio-temporel, développé par... Alors là, j'écris ER égale EPR. EPR, c'est les paradoxes d'Einstein, Podolsky et Rosen. Et ER, c'est Einstein-Rosen. C'est-à-dire qu'en 1935, Einstein, qui avait toujours un tas d'imagination en cosmologie, il avait trouvé ce pont pour relier deux trous noirs. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Mais ça a été repris récemment par deux théoriciens, Maldacena et Susskind, qui sont des théoriciens de la théorie des cordes. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Alors, la suite. Eh bien, la suite, c'est que, justement, l'intrication et la décohérence amènent à réaliser des choses intéressantes. La cryptographie quantique. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à cette intrication, transmettre des messages sans, en étant sûr qu'ils ne seront jamais pris par un espion. Et ça commence à se développer sérieusement. Il y a en particulier une société qui est très liée avec l'université de Genève et l'équipe de Nicolas Gisin qui fait que on commence à avoir des appareils de cryptographie quantique. Alors, vous savez ce que c'est que la cryptographie ? On en parle actuellement parce qu'il y a un film qui est sur la vie de Turing, qui était un mathématicien anglais, et qui avait, par sa puissance de pensée, réussi à déchiffrer les codes des Allemands pendant la dernière guerre, les codes Enigma. Donc, mais ça, c'était des décryptages classiques. Là, la cryptographie quantique, c'est beaucoup plus sérieux. C'est absolument indéchiffrable. Parce que dès que quelqu'un, un tiers sur personne, rentre là-dedans, c'est tout de suite vu par celui qui reçoit et celui qui émet. Donc ils peuvent changer tout de suite de code. Il y a l'ordinateur quantique. Alors ça, c'est une beaucoup plus longue histoire. On n'est pas prêt d'en avoir, mais vous savez que les ordinateurs normaux, ils travaillent en un système binaire. C'est soit 0, l'état 0 ou l'état 1. Et on peut faire de la cohérence, pendant tout le temps de cohérence, c'est l'état superposé, c'est-à-dire alpha fois l'état 0 plus bêta fois l'état 1. Vous allez, pendant tout ce temps-là, vous pouvez faire des calculs en parallèle. Et il y a des algorithmes qui ont été développés, comme les algorithmes de Shor, qui permettent de faire des calculs beaucoup plus rapidement qu'avec un ordinateur classique. Et ça, c'est, on n'y est pas encore, hein, parce que le temps de cohérence est extrêmement faible, et on ne sait pas, enfin, c'est de la recherche actuelle. Et bien voilà.
Et la téléportation.
Ah, téléportation, oui, bah, c'est toujours lié à l'intrication. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une particule dans un endroit et par intrication, vous pouvez l'avoir ailleurs. C'est-à-dire que vous avez. En fait, c'est une seule chose, mais à deux endroits spatiaux différents. Donc, du côté spatial, j'entends. Alors, là, il y a les films de science-fiction, mais c'est pas très sérieux. Bon, ben, je crois que c'est tout. Hein.
Super.
Il y en a plus.
Eh bien, bravo.
Merci.
Mais je ne sais pas vous, mais moi j'ai le cerveau qui flotte là. Hein. Ah là, c'est la débordation du cortex. Écoutez, il nous a tout dit, mais il peut encore en dire davantage s'il y a des questions. Tu vois, tu n'avais pas traité à la téléportation, là, ce coin-là se manifestait, tu n'avais pas traité. Y a-t-il d'autres choses que vous souhaiteriez soulever avec Dominique ?
L'appareil de physique qui est formidable, mais moi je connais bien, et dans mon domaine, qui est l'informatique, la mécanique quantique en fait commence à apparaître, c'est-à-dire les ordinateurs quantiques, on commence à travailler aussi sur des procédés ou des langages pour pouvoir utiliser ces machines, même si elles n'existent pas. Il y a notamment...
justement, j'ai parlé de Shor, et c'est...
Voilà, et en fait, il y a tout un ensemble, tout un mouvement qui fait en sorte qu'on puisse travailler et préparer le terrain pour pouvoir exploiter ces ordinateurs le plus possible.
Tout à fait. Enfin, l'ordinateur quantique, il y a des prototypes qui existent, mais ils sont vraiment faiblards. Hein. C'est pas quelque chose de très simple. Justement parce qu'il y a des cohérences
Et même au niveau de l'informatique, c'est une façon de penser qui est totalement différente.
Ah oui, oui, oui. Parce que c'est niveau des... sur des calculs massivement parallèles.
Je ne sais pas si pour les sculpteurs de la salle, la façon de penser différente peut faire naître de nouvelles sculptures.
Bonjour.
Ça y est, c'est bon, tu
parles. J'ai pas si loin. J'ai appris beaucoup de choses, merci. En particulier, je voudrais avoir une explication sur les rayons cosmiques qui ont permis de découvrir le positron. Parce que dans les rayons cosmiques, il y a aussi de l'antimatière qui nous arrive
de l'espace. Antimatière.
De l'antimatière.
Ah oui, oui,
c'est-à-dire des antiprotons.
Oui, puisque les positrons, c'est de l'antimatière, c'est des électrons positifs.
Micro, s'il te plaît. Parle en micro.
Oui, je disais que les positrons, c'est de l'antimatière, ce sont des électrons positifs.
Est-ce qu'il y a aussi, dans les rayons cosmiques, des rayons qui sont avec des antiprotons, de l'antimatière?
Alors, je ne pourrais pas répondre à cette question-là, mais dans les accélérateurs style les lâchés, on fabrique ce genre de...
Oui, c'est ça, on fabrique des...
On fabrique de l'antimatière en permanence.
De l'anti-univers.
De l'anti ?
Univers.
Oui, un univers positif par rapport à un univers négatif. Mais en charge positive, charge négative.
Est-ce que l'équation de Schrödinger a encore une pertinence ou est-ce que je dois mettre tous mes cours de fac à la poubelle?
Non, elle est toujours pertinente et d'ailleurs on enseigne toujours l'équation de Schrödinger à l'université.
Ah, ça me rassure. Parce que
simplement, elle est...
Je me suis alors beaucoup peiné là-dessus. Donc ça m'ennuierait de faire un auto-da-fé.
On l'enseigne au début de l'université parce qu'elle a un rôle pédagogique intéressant. Ce sont des maths pures, on trouve des valeurs propres, des polynômes d'Hermite, des machins, de la guerre, j'en passe des meilleurs, et ça permet aux étudiants de pouvoir faire des calculs. Mais la physique de Schrödinger est un peu, je dirais, un peu faussée par le fait qu'il a trop voulu revenir vers le monde classique, hein, parce que son équation, on sait la résoudre facilement depuis la fin du 19e siècle. Et, en revanche, Heisenberg est allé beaucoup plus loin parce qu'il a complètement changé la façon de penser. Et même si les mathématiques sont pas très compliquées non plus, parce que c'est quelque chose de matriciel. Mais, et puis, on utilise les espaces de Hilbert, et là, ça, c'est d'une façon naturelle. Et ça, c'est Dirac qui a introduit ça. Et Van Neumann. Et aujourd'hui, dans les cours un peu évolués de physique quantique, on attaque tout de suite par les vecteurs bras et les vecteurs quêtes de Dirac. C'est-à-dire l'espace. Voilà, je rentre pas dans les détails.
Oui, on ne serait pas sûr de suivre. Certaines. Autre interrogation ? Oui, au fond. L'importation n'est pas encore là.
Oui, mais on a le temps. Alors, moi j'avais une question simple parce que j'ai eu du mal à suivre un peu tout. Je me disais, est-ce que toute cette physique en folie, est-ce qu'elle a des effets sur la caméra là, qui a enregistré, sur la visio, l'appareil qui fait la visio, etc. Est-ce qu'on a des applications très pratiques finalement?
Il n'y a que ça. Il n'y a que ça.
T'avais compris, hein.
Les cartes SD qu'on trouve dans les caméras ou dans les appareils photo, c'est grâce à la mécanique quantique. C'est ce qu'on appelle la physique du solide, c'est-à-dire la physique microscopique. Et comment se comportent les... En fait, ce sont des transistors, des circuits intégrés. Il y a des millions.
Ton micro plus près.
Oui. Il y a les circuits intégrés sont constitués de millions de transistors et des électrons qui bougent dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment la physique quantique, la physique du solide, la physique de la matière condensée, et par exemple, il y a vous avez la supraconductivité. La supraconductivité, c'est lorsque les matériaux, comme le cuivre, ils sont conducteurs, mais il y a d'autres matériaux qui sont conducteurs, et je vais trop vite. Je prends le cuivre, c'est un matériau classique, il conduit l'électricité, mais il a une certaine résistance, la résistance électrique, la loi d'Ohm. Donc il perd de l'énergie. Et vous avez en d'autres matériaux qui sont supraconducteurs à partir d'une certaine température, très basse généralement, où là, il n'y a plus de perte d'énergie et il y a une transmission, un courant électrique qui passe sans aucune perte. Et par exemple, ça, c'est utilisé pour les aimants magnétiques qui sont utilisés en IRM. Par exemple, l'imagerie à résonance magnétique nucléaire. C'est utilisé aussi au LHC, puisque on a à 100 mètres de profondeur, on a un tunnel circulaire qui fait 27 km de long et à laquelle il y a des aimants partout pour accélérer et pour guider les particules, protons ou électrons. Et ces aimants sont constitués de matériaux supraconducteurs. On la trouve partout. Dans la caméra, les cartes que vous avez dans les appareils photo, les cartes que vous avez dans vos appareils de téléphone mobile, vous avez des cartes, tout ça, c'est des circuits intégrés qui sont à base de physique quantique.
Peut-être nous pourrions libérer Dominique, qui vient de travailler avec son esprit pendant pratiquement 2 heures.
Deux heures.
Avec les questions, on n'en est pas loin.
J'espère que ça sera 2 heures.
Oh, mais justement, il y a une cohérence dans la longueur.
Non, c'était parfait. Je m'en excuse parce que Non.
Personne n'a souffert. Non, tu nous as charmés. Et il y a une poésie finalement dans tous ces termes qui sont expliqués. Il faut vraiment avoir un esprit, je crois, formé pour saisir toutes les nuances. Mais ça a été fabuleux d'arriver à simplifier ces grands mouvements historiques pour la construction finalement de nos appareils de tous les jours. Un grand merci à Dominique.
Et c'est moi qui vous remercie.
Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais 2 choses à vous dire. Vous savez que dans la petite université, les thèmes que nous choisissons, qui sont d'une variété aussi grande que possible pour pouvoir justement partager des connaissances aussi variées que possible, sont majoritairement suggérés par les adhérents, par les membres de l'association. Donc, à partir de ce soir, nous faisons un appel pour tous les membres ou participants. Si vous avez des idées de thèmes, de sujets, avec éventuellement 1 ou 2 conférenciers qui peuvent être les acteurs de ces conférences, nous serions ravis de les recevoir. Alors, bien sûr, on peut le faire comme ça autour du casse-croûte qui va suivre, mais vous pouvez le faire également en écrivant à contact@pupenvol.fr, qui est notre adresse électronique où tout sera centralisé. Alors, si vous pouviez faire ça dans les 4 ou 5 semaines qui suivent, ce serait parfait, parce qu'à partir de la fin avril ou à partir du début mai, nous allons, c'est le conseil d'administration, et nous sommes 12, on se réunit à la maison, et ensuite on essaie de prendre tous les sujets, et on voit comment on peut les disperser pour couvrir une palette aussi grande que possible des propositions. Voilà. Et ça, c'était la première chose. La seconde, c'était pour vous parler de la prochaine conférence qui ne se tiendra pas le 4e mercredi du mois, mais qui se tiendra la semaine prochaine à la salle des fêtes de Carbonne, car on a eu la possibilité de recevoir sur cette date-là le grand maître du Grand Orient de France qui viendra nous démystifier la franc-maçonnerie en apportant
un aspect historique et puis également des éléments sur le fonctionnement actuel du Grand Orient. Voilà. Et maintenant, donc,
à table.
À table.
Qui est à l'origine du texte dans les derniers
volumes? Bonjour. Je vais vous poser une question.
Oui.
Pour l'homme de matière.
Oui.
Parce que le positron, la différence entre le positron et le positon.
C'est pareil.
Mais l'antimatière, normalement, l'antimatière, c'est un état qui, lorsque rencontre la matière, se transforme en énergie.
Oui, absolument. C'est ça. Mais il y a très peu d'antimatière. Je ne sais pas pourquoi.
Ah ouais.
Vous l'avez vu?
Et oui, parce que c'est normal, parce que l'antimatière rencontre automatiquement de la matière et ça...
Ah bah oui, ça disparaît.
Disparaît.
Je pensais que tu nous fais un petit couplet sur le boson de Higgs.
Comment on allume la lumière, s'il te plaît?
Je ne sais pas le sujet. J'en ai parlé quand même.
Oui, tu l'as cité. Tu l'as cité.
Au bas, il est. Au bas.
Et ça, c'est la physique des particules.
Au bas, au bout du bas.
Oui, c'est dans la lumière de ce que j'ai raconté, mais je me suis arrêté.